une incompréhension totale à la lecture de cette note qui est en complète contradiction avec ces phrases-là par rapport à l'office. Et enfin, de l'indignation parce que cette méthode me paraît insensée. On ne peut pas avoir un discours et puis par-dessous faire du travail comme celui-là, du souterrain, et après se retrouver devant la perte totale de choses. Et c'est une attitude que je ne comprends pas et que je ne peux pas apprécier.
En venant ici, à Urmat, nous allons engager aujourd'hui avec vous un plan d'action sans précédent en faveur de la valorisation de la forêt française. Le bois est une gigantesque source de croissance durable.
Mais l'ONF elle-même vit des secousses en interne. Il y a une injonction à produire plus. Donc c'est même un peu ce qui est ressorti du discours de Nicolas Sarkozy à Urmat. Rentabiliser plus cette matière première, cette filière. Donc il y a de toute façon, même au sein de l'ONF, un conflit entre les agents et la direction.
Les hommes de terrain, des hommes passionnés et des hommes qui aiment la forêt, ont très peur que des besoins économiques deviennent le maître mot d'une gestion. Les communes forestières sont dans le même état d'esprit. On ne pourrait pas laisser piller nos forêts, ce n'est pas possible.
Ça veut dire que sauver la forêt publique, ça passe par sauver l'ONF, disons, des griffes, du profit à tout prix, quoi.
Voilà, c'est tout à fait cela. L'Office connaît un certain nombre d'évolutions qui se traduit par, sur le terrain, des agents patrimoniaux qui ont de plus en plus de surface à s'occuper et du même coup ne peuvent plus avoir les mêmes relations avec les communes. En tout cas, ça se traduit comme ça pour nous. Maintenant, ce qui se passe en haut, c'est déjà plus lointain, c'est sur Paris. De plus, les évolutions internes à l'Office depuis l'année 2000 se sont aggravées par l'application de la RGPP qui s'applique à l'ONF aussi, et du même coup, encore des difficultés et encore moins d'agents forestiers et une réorganisation complète qui était peut-être nécessaire pour certaines choses. On ne veut pas non plus s'accrocher à ce que furent les eaux et forêts au XVIIIe siècle, mais en tout cas, ce qui nous est proposé là ne peut pas nous convenir parce que la forêt, c'est un bien public. Sauver l'ONF, c'est la garantie d'avoir une gestion durable.
Vous ne croyez pas aux vertus du marché, quoi, le mieux-disant du privé?
Non.
Le mieux-disant durable des entreprises privées?
Non, moi, je n'y crois pas. On a quelques expériences quand même. Je suis persuadée que ce ne serait plus que l'aspect financier qui prévalerait du même coup. Ça ne peut pas être, ce n'est pas possible.
Ils vivaient en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier. Ils n'avaient jamais vu l'ombre d'un bûcheron, ce grand chêne fier sur son tronc. Il eût connu des jours filés d'or et de soie, sans ses proches voisins, les pires gens qui soient. Des roseaux mal pensants, pas même des bambous, s'amusant à le mettre à bout. Du matin jusqu'au soir, ces petits rejetons, tout juste canne à pêche, à peine mirliton, lui tournant tout autour, chantait in extenso l'histoire du chêne et du roseau. Et bien qu'il fût en bois, les chênes s'écourant, la fable ne le laissait pas indifférent. Il advint que lassé d'être en butte au lazzi, il se résolut à l'exil. À grand-peine, il sortit ses grands pieds de son trou et partit sans se retourner ni peu ni prou. Mais moi qui l'ai connu, je sais bien qu'il souffrit de quitter l'ingrate patrie. À l'orée des forêts, le chêne ténébreux a lié connaissance avec deux amoureux. Grand chêne, laisse-nous sur toi graver nos noms. Le grand chêne n'a pas dit non. quand ils eurent épuisé.